Vous êtes sur RTL. RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Vous avez annoncé hier dans le journal Le Monde l'abandon du projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, le fameux Terminal 4. Pourquoi on n'a plus besoin d'avions ?
Bien sûr que si, on aura toujours besoin d'avions. Simplement, on a besoin maintenant de repenser le transport aérien en fonction des enjeux du développement de demain. Et le développement de demain, ce ne sont plus des aéroports qui s'étendent à l'infini avec le trafic aérien. Et donc, dans la loi que j'ai présentée avant-hier au Conseil des ministres, on prend des mesures pour soutenir le développement d'un avion qui sera moins polluant, qui sera avec des autres carburants, pour proposer des alternatives, pour faire en sorte qu'on prenne plus l'avion quand on peut prendre le train pour une distance ou un temps qui est raisonnable, de 2h30. On propose aussi d'arrêter justement d'étendre les aéroports. Et donc c'est logique que dans ce cas-là, le plus gros projet d'extension d'aéroport qui était celui de Roissy-Charles de Gaulle, eh bien on le réinterroge et on dise ça n'est plus possible. Donc on abandonne le projet, mais on demande à Aéroports de Paris de réfléchir à ce que va devenir Charles de Gaulle et comment Charles de Gaulle va s'adapter au monde de demain.
Parce que je vous lis, vous dites que vous avez demandé à Aéroports de Paris d'abandonner son projet et de lui en présenter un nouveau, plus cohérent avec ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement. Donc ça veut dire quoi exactement un nouveau ?
Ça veut dire qu'on demande à Aéroports de Paris de s'adapter aux avions qui vont arriver demain. Donc, ils seront des
demain,
avions...
c'est 2035, nous dit Airbus, pour un avion à hydrogène. Et si on est optimiste, j'imagine.
C'est ça, même si il y aura d'autres types de carburants avant l'hydrogène. Il peut aussi y avoir des biocarburants, enfin des carburants plus verts, moins polluants. Et puis oui, on investit. On met 1,5 milliard dans le plan de relance justement pour travailler à un avion moins polluant. Pour demander aussi à Aéroports de Paris de travailler sur un aéroport qui serait plus intermodal, c'est-à-dire ça veut dire où on puisse arriver en train, en métro, de manière plus pratique, qu'on ait moins de problèmes pour transvaser ses bagages, par exemple. Parce que si vous arrivez en TGV et qu'après vous voulez prendre un avion, il faut que ce soit pratique. Et donc, de travailler, le projet, il doit être là-dessus. Il doit être sur accueillir des nouveaux avions et sur faire en sorte que les voyageurs ne soient pas obligés de prendre un avion pour arriver à l'aéroport.
Ce que je voudrais savoir, c'est
d'autres transports.
Il n'y a pas d'augmentation de capacité d'accueil ? Parce que le projet, c'était pour 450 vols, 40 millions de passagers à horizon 2037. Donc, ça, c'est fini tout ça.
Oui, on voit bien qu'on n'en est plus là. On voit bien qu'on n'en est plus là. Prévoir maintenant des extensions sur des immenses capacités et sur une explosion du trafic, on voit bien qu'on n'en est plus là.
D'accord.
Donc il faut
se faire à l'idée qu'il n'y aura pas de retour à la normale dans l'aérien, jamais plus. Il faut se faire à cette idée, Madame la Ministre.
Alors je le tournerai autrement. Moi, je tournerai sur le fait que maintenant, il faut que l'aérien se tourne vers l'avenir et donc on aura toujours besoin d'avions. Pour faire des grandes distances, bien sûr qu'on aura besoin d'avions. Maintenant, a-t-on besoin d'avions pour faire des plus courtes distances et pour faire ce qu'on appelle des vols domestiques ? Non, on peut le faire en train. Et donc, améliorons l'offre de train, faisons en sorte que ce soit pratique de prendre un train puis un avion, faisons en sorte qu'on puisse acheter des billets où ce soit marqué sur le billet, le trajet en train, le trajet en avion, qu'on n'ait pas besoin de prendre plusieurs billets différents. Et puis, faisons en sorte que les aéroports soient aussi vertueux sur le plan environnemental. En se chauffant avec de la géothermie, par exemple, comme ce qu'on demande à ADP.
Barbara Pompili, ce projet de T4, c'était quand même 50 000 nouveaux emplois directs, 225 000 nouveaux emplois indirects. On va faire quoi de toutes ces personnes ?
Alors d'abord, il va y avoir des emplois si l'aéroport s'adapte justement à ces nouveaux enjeux. Et puis ensuite, on est sur le Val d'Oise.
Si.
On est sur le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est un territoire qui est un territoire qui a besoin de se développer. Il a connu d'autres objets puisque nous avons décidé aussi
d'abandonner Europa City.
D'abandonner Europa City. Oui, mais abandonner Europa City, c'est pareil. C'était un projet complètement du passé où on met un grand centre commercial dans des champs. Ça, c'est aussi des choses qu'on interdit dans la nouvelle loi climat et résilience qu'on a présentée cette semaine. Mais ça ne veut pas dire que ce territoire ne doit pas se développer. Travaillons
mais
sur
le développement. Mais pas avec des grands projets, si on vous comprend.
On peut faire des grands projets, mais ne les faisons plus en bétonnant les sols. La bétonisation des sols, c'est hyper dangereux pour l'environnement et pour notre avenir. Là, on a des friches, on met de l'argent, un fonds friche, pour aider justement les aménageurs à aller plutôt sur des friches que sur des terres naturelles ou agricoles. Et on travaille aussi pour aider le développement de ce territoire qui a besoin de perspectives économiques.
Effectivement, il y a d'autres extensions qui pourraient être remises en cause. Je pense à tous ces projets en cours dans les aéroports de Nice, Marseille, Lille, Montpellier, La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Balmulhouse et Nantes.
Oui, je ne vais pas vous faire des annonces une par une sur chaque aéroport. Là, on a posé la base. On a posé le fait qu'on ne pouvait plus faire d'extension d'aéroport parce que sur des prévisions de trafic qui n'ont plus lieu d'être. Maintenant, on va regarder au cas par cas. Il y a des aéroports...
Mais parmi ceux que je vous ai cités, est-ce qu'il y en a, c'est sûr, qui n'auront pas d'extension ?
On regarde au cas par cas. Moi, je ne vais pas vous donner des réponses comme ça. On regarde au cas par cas. Chaque aéroport, comme vous le disiez justement, c'est une activité économique, c'est aussi des emplois. Donc, il faut vraiment qu'on s'adapte et qu'on regarde au cas par cas si les projets sont en adéquation ou pas avec les enjeux environnementaux. Et là, on parle de projets en cours. Hein. Les projets à venir, ça, c'est terminé.
Barbara Pompili, dans le projet de loi climat que vous avez présenté mercredi en Conseil des ministres, figure la mise en place d'une écotaxe pour les camions. Est-ce que vous êtes sûre que ça va passer ? Parce qu'en 2014, François Hollande avait dû reculer, vous vous en souvenez, vous n'étiez pas encore sa ministre, mais il y avait eu les bonnets rouges. Et derrière les bonnets rouges se cachent souvent les gilets jaunes.
Le pari qu'on fait dans ce projet de loi, et d'ailleurs on le fait dans plein de domaines, c'est de voir avec les élus locaux, ou les élus régionaux dans ce cas, qu'est-ce qui est le plus adapté pour leur territoire.
Valérie Pécresse dit déjà banco, la présidente de l'Île-de-France.
Eh bien banco, si Valérie Pécresse considère que sur son territoire c'est intéressant d'instaurer une écotaxe qui lui permettra de financer d'ailleurs de la réparation de route ou d'autres choses, eh bien très bien. Justement, on demande aux élus de pouvoir on leur propose de se saisir d'une possibilité, soit ils s'en saisissent, soit ils ne s'en saisissent pas.
On taxe les camions qui passent, les camions en transit ou les camions tout court, donc tous les camions.
Non, ce sont les camions qui circulent sur certaines routes du territoire. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est une opportunité qu'on donne aux régions. On leur dit, si vous voulez vous saisir de cette opportunité, faites-le et faites-le après avec votre méthode et à votre manière.
Qui va négocier avec les transporteurs ?
Ah bah ce sera chaque région qui regardera ce qui est possible. C'est déjà instauré en Alsace. Hein. L'Alsace a décidé de le faire. Ils l'ont fait parce qu'effectivement ils ont un transit, notamment avec l'Allemagne. Qui nécessite ce genre de mesures. Si l'Île-de-France considère qu'ils doivent le faire, qu'ils le fassent. Il y a d'autres régions qui ne le feront pas parce qu'ils considéreront que ça n'est pas nécessaire.
Barbara Pompili, vous avez peut-être vu les images de cette petite commune de Seine-et-Marne-Esblic qui enregistre sa quatrième crue en 5 ans. On peut parler aussi du Sud-Ouest, on peut parler de Saintes en Charente-Maritime touchée récemment. Alors il y a les effets du dérèglement climatique, mais il y a les effets de l'aménagement des sols. À quoi ça sert de nous faire la leçon sur la protection de la planète si on continue de construire en zone inondable en fait ?
Alors déjà, moi j'ai demandé à mes services n'ont jamais vu ça, un tel niveau d'alerte qui couvre presque la moitié du territoire sur les crues, c'est énorme et ça prouve que les choses bougent et malheureusement pas forcément dans le bon sens, donc à cause du réchauffement climatique. Bien évidemment, mais ça nous pose des questions sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur comment on aménage les sols. Il faut qu'on arrête d'artificialiser. Parce que le sol doit jouer un rôle d'éponge. Mmh. Et là, il ne peut plus jouer un rôle d'éponge quand il est bétonné de partout. Donc c'est aussi pour ça que dans la loi, on divise par deux le rythme d'artificialisation des sols. C'est très important.
Après, mais est-ce que vous allez interdire aux maires de construire en zone inondable une bonne fois pour toutes ?
Non mais alors, c'est interdit de construire en zone inondable, Madame Ventura. C'est interdit.
Ça reste des zones inondées. Ça reste vous avez vu ce que les assurances ont dit ces dernières semaines, qu'elles n'en pouvaient plus, qu'il leur fallait d'autres dispositif.
Alors, on va tester, vous avez vu ce qui s'était passé dans les Alpes-Maritimes, on met en place là un dispositif expérimental pour aider les gens à reconstruire, donc en complément de leur assurance, on va les aider en finançant par le fonds Barnier, à reconstruire de manière résiliente, alors ça veut dire quoi ? De reconstruire différemment, c'est-à-dire qu'on arrête de construire pareil, qu'on construise avec des étages surélevés, avec éventuellement même des pièces de sécurité si jamais il y a des inondations, et en essayant aussi de repousser, de ne pas reconstruire reconstruire dans des endroits où manifestement on va se reprendre une inondation. Donc on essaye de travailler à un nouveau mode de construction qui tiennent compte de ces inondations.
Vous parliez de l'artificialisation des sols. Que faut-il faire avec Amazon? Parce que les opposants dénoncent la fragilité des sols quand ils mettent en place de grands entrepôts. On l'a vu récemment près du pont du Gard, 38 000 mètres carrés. En même temps, le géant du e-commerce annonce qu'il va recruter 3 000 personnes en France, du préparateur de commandes à l'ingénieur, des recrutements qui s'appuieront sur la diversité et l'égalité des chances. On fait quoi avec Amazon? Vous vouliez un moratoire sur les entrepôts du e-commerce. Vous le voulez toujours?
On a de plus en plus de gens en France, et pas qu'en France d'ailleurs, qui utilisent le e-commerce. C'est un fait, et donc il faut qu'on puisse s'y adapter. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi sur les sols. Donc moi, on a mis dans la loi le fait qu'on ne pouvait plus artificialiser quand il y avait des possibilités d'aller sur des friches. Donc ça va s'appliquer, y compris pour tous les entrepôts. Et après, on est en train de réfléchir à comment faire en sorte pour que le e-commerce s'adapte et puisse vivre en relation aussi avec les enjeux environnementaux. Donc c'est un travail qu'on est en train de faire.
Donc pas de moratoire pour l'instant.
Mais ce qu'on a mis dans la loi, c'est de facto un moratoire. On est même au-delà du moratoire, puisqu'on ne peut plus artificialiser quand on peut faire autrement.
Barbara Pompidier, est-ce que vous confirmez que le Covid ralentit la maintenance des centrales nucléaires et est-ce que ça peut avoir une incidence sur la production d'électricité? Des coupures d'électricité?
Non, il y a eu un sujet lors du premier confinement. Le premier confinement, on n'a pas pu faire les maintenances de centrales. Et comme les maintenances de centrales sont obligatoires, on a dû les repousser. Et c'est ça qui a posé des questions d'adaptation sur cet hiver. Mais en revanche, aujourd'hui, toutes les maintenances sont assurées. Je peux vous rassurer, justement.
Et là aussi, j'aimerais avoir votre religion. Vous avez vu ce qu'il se passe en Suède, pays exemplaire en théorie en matière de protection de l'environnement? Sauf que la Suède a fait le choix de l'éolien, mais elle arrête ses centrales à charbon, n'a conservé que 3 centrales nucléaires, et avec le froid et l'absence de vent, l'éolien ne produit pas suffisamment. Résultat, la Suède a dû mettre en route sa vieille centrale au gasoil, a dû acheter à l'Allemagne, à la Pologne et à la Lituanie de l'électricité produite par leur centrale à charbon. Vous croyez toujours possible une France sans nucléaire ?
Alors, je le crois d'autant plus possible que nous avons publié la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, une étude qui a été faite par RTE, c'est le réseau d'électricité, et par l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, donc des gens sérieux, qui disent que c'est possible, à horizon 2050, de passer aux énergies renouvelables totalement. Mais
totalement à 100%?
Oui, à 100%, à l'horizon 2050. Alors, c'est un peu
donc,
après
donc
2050.
Donc, la Suède est un mauvais exemple.
Non, mais à partir du moment où on prend certaines mesures et où on le fait de manière progressive. Nous, on a le temps de prendre cette décision. Est-ce qu'on garde du nucléaire ou est-ce qu'on passe au 100% renouvelable? Maintenant, on sait qu'on peut faire le choix entre les deux, mais il y aura des investissements à faire, il y aura un certain nombre de contraintes et le choix sera évidemment un choix qui sera fait démocratiquement.
Merci beaucoup, Barbara Pompili.
Et comme chaque jour, l'intégralité.